Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Louis. On le sait, mais on l'oublie toujours. Une vie peut dérailler en un quart de seconde. Le matin, vous prenez votre voiture ou votre vélo, et là, une route trop glissante. Vous alliez trop vite. Vous étiez en retard. En un quart de seconde, une vie déraille, son cadre explose. Mais il existe aussi des moments où l'opposé exact se produit. Je pense à des rencontres qui sont des évidences, de personnes qui nous percutent et qui nous deviennent tout d'un coup vitales. Des rencontres qui tombent sous le sens et qui nous réparent. Cette fulgurance avec laquelle la vie peut prendre un virage ou un autre, on la retrouve dans l'histoire de Clarisse et Jordan, au micro de Marion Botorel. Je suis Louise Emerlé. Bienvenue dans Passage.
Je m'appelle Clarisse, là j'ai 24 ans et j'habite à Yzeron.
Je m'appelle Jordan, j'ai 25 ans et je suis en formation pour être chauffeur poids lourd. Je suis un enfant d'une famille de 3 enfants, dont je suis l'aîné. Je grandis comme tous les enfants normaux, sauf que à partir de mes 11 ans, ma mère a des gros problèmes d'argent. Donc je suis très impacté à l'école, je le vis plutôt très mal. C'est très compliqué à la maison. Donc de tout ça découle beaucoup de problèmes. Je suis placé en foyer parce qu'à l'école, ils se rendaient compte que j'allais pas bien. Du coup, je m'isole très rapidement dans les jeux, jeux vidéo. Et j'ai du coup toute ma scolarité qui en prend un coup à cause de ça, parce que du coup, je m'isole énormément et je ne fais plus que de jouer aux jeux, quoi. Et je me sers de ça comme une carapace, quoi.
J'ai grandi à Pau avec mon papa, ma maman. J'étais fille unique jusqu'à mes 9 ans. J'ai eu une belle vie. Je voyageais beaucoup avec mes parents pendant mes vacances scolaires. J'étais une petite fille très comblée, très joyeuse, très contente, avec plein de copines, plein de... Voilà, je grandissais bien. J'avais des petites difficultés à l'école, mais j'arrivais à m'en sortir. J'étais dyslexique, donc J'avais une école un peu particulière pour pouvoir m'en sortir un peu plus et pour que je me sente plus accompagnée. Mais sinon, voilà, j'avais une vie tout à fait normale d'une petite fille de 9 ans. À 9 ans, je passe la journée chez ma tante. Ma tante parle avec une amie à elle. Et elle explique que mon papa n'est pas réellement mon papa. Sauf que je ne suis pas censée être là derrière la porte à entendre. Donc, j'écoute jusqu'à la fin. Et je comprends que mon papa n'est pas mon papa. Mon papa m'a adoptée à l'âge de 2 ans. Et que il m'a acceptée en tant que sa fille. Mais que je n'étais pas au courant de tout ça. Personne ne sait réellement que je l'ai entendu, cette conversation. Il m'a fallu quelques jours où je me retrouve toute seule dans ma chambre et à vraiment me poser des questions le soir en m'endormant. Et mon frère est né blond aux yeux clairs. Moi, je suis brune métisse aux yeux marrons. Je fais le lien entre les deux. À ce moment-là, ça a été très, très, très compliqué. Je suis restée sans demander quoi que ce soit à personne. Donc, je deviens bien silencieuse, bien enfermée sur moi-même, en fait. Tout est devenu automatique et sans émotion face à mes parents. Le soir, ou quand j'ai des petits moments où je suis toute seule dans ma chambre avec mes frères, je m'écroule, je m'effondre. Il y a seulement mes frères qui me voient et qui m'entendent pleurer. Et je m'élève, entre guillemets, à ma manière, dans mon coin et sans rien dire à personne. Et je grandis comme ça. Mon papa ressent beaucoup ce sentiment un peu tendu dans cette maison. Donc, il vient me voir dans ma chambre. Il vient me voir et m'explique calmement qu'il aimerait que ça se détende et qu'il y ait des explications entre ma maman et moi. Un moment dans la discussion, je lui explique que j'ai entendu ma tante, du coup, discuter avec sa copine. Et je lui explique que je ne savais pas tout ça, que je ne savais pas qu'il n'était pas mon père, qu'il était juste celui qui m'avait élevée. Et là, il comprend qu'en fait, les conflits viennent de tout ça. Il m'a expliqué qu'il ne savait rien réellement de toutes mes questions, en fait, que je me pose. Donc, avant qu'il arrive dans nos vies, qu'est-ce que je faisais réellement? Personnellement, je ne sais pas ce que j'ai vécu entre mes 0 et mes 2 ans. Il m'explique que lui non plus ne sait rien, qu'il n'y a que ma mère qui sait. Et il m'explique aussi qu'il n'était pas au courant que je ne savais pas en fait que ce n'était pas mon père. Il ne veut pas qu'il y ait de conflit avec ma maman et qu'il faut qu'on discute ou qu'on mette les choses à plat. Mais mon père m'explique qu'il l'a essayé plusieurs fois, mais qu'elle n'a jamais voulu et qu'elle n'a jamais essayé de s'expliquer. Elle a toujours changé de sujet ou tourné les talons et partir. Donc, il m'a expliqué que il fallait pas que je l'en veuille à lui, en tout cas, parce que lui-même ne savait pas tout ça. Il m'a quand même fait comprendre qu'il était mon père. C'est mon papa, il m'aime, et il me l'a fait comprendre à ce moment-là. Quelques mois après, il y a les portes ouvertes du lycée, le lycée agricole où je souhaitais aller, et c'est ma maman qui m'y amène. Et sur la route, je me dis qu'il faut que je discute avec ma maman parce que j'ai les paroles de mon papa qui résonnent un petit peu dans ma tête. Dans la voiture, à quelques mètres de l'entrée du lycée, c'est à ce moment-là que j'accepte d'essayer de communiquer avec ma maman. Et du coup, je lui pose les questions à ma maman avec un peu d'appréhension, un peu de peur. Qui est mon père? Pourquoi je ne sais pas tout ça? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi, en fait? Et les seules réponses que j'ai de ma maman, c'est « Ton père, c'est ton père. C'est celui qui t'a élevé. Et celui qui t'a créé, il n'est pas là. Tu as du sang réunionné, point final. » J'arrive pas, en fait, à réaliser que j'aurais que ça, en fait. Et je me dis que j'aurai peut-être plus de réponses plus tard, que pour le moment, je vais pas lui prendre la tête plus longtemps et on va rester sur ces mots-là. Thank you.
je fais des activités avec le foyer. Et on est tous un peu de la même galère, quoi. On est tous là pour les mêmes raisons, quoi. C'est qu'on n'a pas forcément une enfance facile. Donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein, tous ensemble, quoi. Mes éducateurs me rabâchent en longueur de temps qu'il me faut quelque chose pour mon avenir. Il me faut un métier, il me faut que j'ai un truc à faire. Par dépit, je dis ouais, paysagiste. Aucune idée pourquoi. Et donc, du coup, je suis parti à Orthez. Et maintenant, j'ai juste à continuer ce que je suis en train de faire, donc ma formation de paysagiste. Et voilà.
J'ai envie d'évoluer, de voir d'autres horizons. Donc, partir de Pau était un petit peu un plus parce que je voulais vraiment limite changer de vie, changer d'amis, créer un autre environnement autour de moi. Ma rentrée au lycée a été un peu une renaissance. Ça a été un nouveau départ, une entrée en internat, une nouvelle école avec beaucoup de garçons, 200 élèves avec 6 filles en tout et 3 filles dans ma classe. J'apprends à m'intégrer très très vite dans cette classe. L'environnement est très cool. Être dans une classe avec que des garçons, il faut ouvrir sa bouche. Donc ça forge un peu le caractère et vis-à-vis de ce que je vis à la maison, en fait, ça m'aide à me forger et à savoir que ben, je peux ouvrir ma bouche et extérioriser un petit peu au lycée. Et un garçon devient un petit peu un ami, puis un chéri. C'est ma première histoire d'amour. Ça me permet aussi d'être aimée par un garçon. Parce que même si mon papa me dit ben, qu'il est mon papa, qu'il est près de moi, etc., pour moi, il n'y avait pas les mots « je t'aime », il n'y avait pas des vrais mots d'amour. Donc, pouvoir donner et recevoir d'un garçon, c'était la première fois et ça me faisait du bien. Donc, la première année, on était ensemble avec ce Mathieu. Tout se passe bien. Au moment où on se sépare, en milieu d'année, je commence à avoir un autre garçon avec qui on se chamaille beaucoup, mais sans plus dans les couloirs. Il s'appelle Jordan.
Les vrais premiers souvenirs que j'ai de Clarisse, ça remonte à quand je suis en première. Elle est en seconde. Je la connais parce que y a personne dans ce lycée. Donc automatiquement, je la connais parce que ben elle est là. Dès que je vais dans ma classe, je passe automatiquement devant sa classe. Et donc j'avais toujours cet automatisme de faire des, je sais pas, des comme on fait à un bébé quand on lui fait des gazouillis sur les côtes, gizi gizi gizi. Et du coup, ben c'est automatique, quoi. C'est je passe et je le fais. Et puis juste pour la faire chier, quoi, hein, tout simplement. On s'entend très bien, mais tout le monde s'entend bien avec moi. Je plaisante avec beaucoup de personnes. C'est pas la seule avec qui je fais ça, donc ça s'arrête là.
C'est pas vraiment mon coup de cœur. C'est une personne voilà, qui m'intéresse, mais voilà, juste pour rigoler. Je le croise dans le couloir, on se check, on se fait on chamaille, il me taquine. Il y a juste une journée où, un mercredi après-midi où il faisait chaud, on se croise à ce moment-là et on se quitte pas de l'après-midi.
Le mercredi après-midi, j'ai 4 heures de colle à faire. Dans la pièce de à côté de la colle, en fait, il y avait donc la classe de Clarisse, quelques personnes de sa classe qui sont restées là le mercredi après-midi. Et je sais pas trop ce qu'ils faisaient sur l'ordi, ils regardaient un film ou je sais plus trop quoi. Et donc je me pose à côté de Clarisse justement. Puis on commence un peu à parler, etc. Et puis on n'avait jamais parlé comme ça, ou on s'était jamais trop adressé la parole, ou on s'était même jamais parlé en face à face. Et puis réellement, hormis des micro-interactions de bébé, il y a jamais rien eu quoi. Et on discute. Et puis en fait. Il y a ce petit sentiment de le temps, il passe vite. Et puis en fait, on passe l'après-midi comme ça jusqu'au soir qu'on doit rentrer à l'internat, donc jusqu'à 6h le soir. Et puis en fait, de 3h jusqu'à 6h, on parle ensemble. C'est passé à une vitesse. Et juste, j'en tire juste un souvenir de, on va dire, un long fleuve. Et en fait, il n'y a pas un bruit. Et c'est calme et je suis vraiment bien. T'es pas sans raison que le temps passe si vite, quoi. Mais à ce moment-là, je me doute de rien. Et pour moi, c'est juste une après-midi sympa. Et puis, ça s'arrête là, quoi.
Mais moi, j'ai toujours Mathieu en tête. C'est l'une des seules journées où on a vraiment profité tous les deux.
Et il n'y a plus jamais eu de mercredi après-midi ensemble. et ça a jamais été plus loin. Alors pourquoi est-ce que ça a jamais été plus loin? Je sais pas. Quand je vis ce moment-là, je me dis pas que c'est quand même très spécial de vivre ça, parce que du coup j'ai pas assez de vécu et c'est un truc qui m'était jamais arrivé. Et je passe à autre chose et je pense qu'elle passe à autre chose aussi en fait. Donc du coup, on a passé une bonne après-midi, c'était sympa et puis point en fait, fin de l'histoire.
Du coup, l'année de terminale est un peu compliquée parce que je me rends compte que c'est pas mon milieu, je suis pas trop dans mes cours. Et donc, je passe mon bac, mes oraux se passent bien, mais mes écrits, bof, donc j'ai pas mon bac. Je dois le repasser au rattrapage. Le retour à la maison se complique un petit peu. Voilà, j'attends que le rattrapage se fasse. Le rattrapage s'est très très bien passé. J'ai mon bac, je fais un boulot d'été à la mairie de Pau, tout va bien. Et j'ai ma tante qui a 3 ans de plus que moi, qui m'a dit que si jamais j'avais l'opportunité d'avoir un travail à côté de chez elle, elle pouvait m'héberger, parce que chez mes parents, c'était de moins en moins facile. Je trouve un boulot pour travailler dans le périscolaire et tout se passe bien. Je sais que fin d'année, je dois partir en vacances avec une de mes meilleures amies. Donc, je kiffe ma vie. Je repars un petit peu chez mes parents de temps en temps, mais ça va mieux.
Je me mets à travailler avec mon voisin qui est peintre. Donc, je travaille en tant que peintre, du coup. Et donc, un matin, je me réveille. Je me rappelais que dans mon rêve, j'avais vu une fille où j'étais avec une fille. Et donc, j'allais chez elle et je voyais ses frères. Et voilà. À force d'y réfléchir, je me dis, mais attends, c'était Clarisse dans mon rêve. Et donc, du coup, je me dis, c'est trop marrant. Je lui envoie un message, vraiment. Salut, comment ça va? J'ai rêvé de toi, trop marrant.
En fait, tu m'envoies juste un coucou, ça va. C'était en mai, fin mai, début juin. Alors que je l'avais sur les réseaux, mais c'est sans plus. Quoi. On ne discutait pas depuis la fin du lycée. Et je savais qu'il avait une copine, mais rien de plus. Et au fur et à mesure, on discute, on reprend des nouvelles l'un de l'autre. Et je me dis, c'est peut-être un garçon de plus qui me parle, mais on verra, quoi. Et quelques jours passent, et puis il me demande si je voulais savoir pourquoi il m'avait envoyé ce message. Il m'explique qu'il avait rêvé, en fait, de moi pendant la nuit et de mes frères, sachant que Jordan ne connaissait rien sur ma famille. Et il ne savait pas que j'avais des frères.
Et en gros, dans mon rêve, je voyais ses frères, deux de ses frères. Et dans mon rêve, je les voyais, ils étaient blonds, mais très blonds, les yeux bleus, et ils jouaient à la console. Et donc, en gros, vu que moi, je suis un geek aussi, je me dis, tiens, je vais aller jouer avec eux, je vais les aider à jouer. Donc, en gros, je lui raconte ça. Et elle me dit, c'est rigolo, parce que moi aussi, j'ai deux frères, et ils sont blonds aux yeux bleus. Et là, je me dis, mais non, c'est vrai?
Dans ma tête, je me dis, c'est bizarre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il me raconte des histoires?
Va savoir pourquoi, j'ai rêvé de ses frères que je ne connaissais ni Adam ni Dev, parce que la seule fois où on s'est parlé, on ne s'était jamais raconté d'intime. Ces deux frères jouent aux jeux vidéo aussi, donc tout coïncide entre mes rêves et ce qu'il était réellement de sa vie, quoi. Ça fait peut-être 3 ans que j'ai terminé mes études et que j'ai plus, mais vraiment plus rien d'elle. Et donc, je me dis à quel moment ça peut être possible de rêver d'elle maintenant. Il n'y a aucune raison, c'est insensé.
Mais finalement, on continue à parler et ça s'approfondit. On s'appelle tous les soirs jusqu'à s'endormir. C'est ces moments un peu très romantiques, mais qu'on pense voir que dans les films. Pour moi, c'était des moments très doux.
On parle du coup, comme je disais, ce fameux feeling qu'on avait et on s'entend trop bien. Et en fait, ça continue quand on parle, un peu des mêmes choses. Et puis, il y a rapidement ce sentiment de on dirait que j'ai 12 ans et que c'est ma première fois que j'ai un téléphone et je parle avec une fille dont je suis tombé amoureux à la cour de récré. C'est la première fois où je ressens ça, à mon âge, quoi, avec avec des expériences passées qui, on va dire, m'ont plus forgé, etc. Et en fait, t'as tout le temps envie de lui parler, et tu lui parles tout le temps, en fait. Donc, je passe littéralement mes journées à lui parler. J'agace énormément mon voisin, qui, à l'époque, est mon patron, et je l'agace énormément à parler autant au téléphone. Et donc, du coup, ouais, je fais que ça, quoi.
Je me rends compte que ça évolue très, très vite. Je me reprojette un petit peu au lycée, où je me disais que, ben, ouais, en fait, c'était peut-être quelqu'un qui pourrait me convenir. Parce que je le disais à mes copines à l'époque du lycée que ben, c'était quelqu'un qui m'intéressait et que peut-être dans le futur, il se passerait quelque chose. Je le sentais. Au moment où on se remet à parler, je me rends vraiment compte que ça peut être quelqu'un qui me convient.
J'ai envie d'essayer de me mettre avec elle, mais ce n'est pas encore réellement ça. On ne s'est jamais encore revus. La seule fois qu'on est réellement resté ensemble, ça remonte à il y a 3 ans au lycée. Je veux quelque chose, mais c'est peut-être pas ce à quoi je pense, ouais.
Je pars tranquillement en vacances, on continue à parler. J'avais d'autres garçons qui me parlaient, mais je leur répondais de moins en moins. Il y avait vraiment que Jordan dans ma tête. Quelques jours après mon retour de vacances, on s'est vus.
Je me sens, comment dire, euphorique. Tu sais, t'as la boule au ventre. T'as envie d'y aller, mais t'as pas envie. En fait, tu te dis que t'as quand même envie d'y aller parce que c'est cool, quoi. T'as des petites suées, mais en fait, y a pas de raison parce qu'en fait, tu vas juste voir une pote que t'as pas vue depuis longtemps et tu parles avec elle depuis un mois, donc c'est cool, en fait. Je sais qu'on va passer une bonne après-midi.
Je suis à la fois excitée et stressée. Je sais pas si je le vois en tant que peut-être petit copain ou en tant que flirt, mais j'y vais, voilà, d'un pas décidé et très apprêtée.
On se retrouve, il est, je sais pas, il est 2-3 heures peut-être. On se retrouve dans un parc, il fait beau, il fait chaud. Et puis on a forcément plein de trucs à se raconter. Donc je retrouve, en fait, je la retrouve à elle et je me retrouve un peu à moi aussi quand du coup j'étais au lycée, même plus jeune en fait. Le temps s'arrête. Et puis, tu sais, il est déjà 4 heures. Et donc du coup, on va se poser dans un bar. Et puis pareil, on discute. T'sais, il est déjà 7 heures. Et donc, du coup, on va aller manger.
Donc, on se pose à l'intérieur et on s'assoit. Et là, tout ce qui se passe autour disparaît. Et on discute profondément. Lui, il m'explique un petit peu sa vie. Moi, j'explique un petit peu la mienne. Et il me tient la main. Et en fait, au moment où il me tient la main, je lui explique mon histoire avec mon papa. Et les larmes montent de plus en plus. Et je suis prise dans mon histoire, en fait. Et je vois qu'il est absorbé par mon histoire aussi et qu'il est là pour me soutenir. Il me serre tellement fort la main que j'ai l'impression qu'il vit l'histoire avec moi et qu'il est prêt à tout, en fait, pour rester avec moi et pour me soutenir, pour me rassurer, en fait. Et quand il me tient la main, il me dit « t'inquiète pas, je serai là ».
Et puis, en fait, je me rends compte qu'on n'est pas si différents que ça, en fait, qu'elle et moi, on est un peu pareil. On n'a pas eu une enfance forcément super gay. Et en fait, je me dis que du coup, elle est beaucoup plus intéressante que ce que je pensais au lycée, quoi. Du coup, là, je me dis réellement qu'il y a vraiment... Il y a moyen de m'ennayer, quoi.
On est vraiment en train de tisser un lien de confiance. Et je me souviens de certains mots qu'il me prononce qui sont... de toute façon, t'es belle et il faut que tu continues à sourire et que t'arrêtes de pleurer parce qu'il faut que tu te battes, en fait. Et là, je me suis dit oui, d'accord. Il va être là pour me soutenir, quoi. Il va être présent pour moi. La soirée se finit, il me ramène chez moi, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes.
On continue à se parler, on continue à se voir de plus en plus et de plus en plus souvent. Et puis, on commence à avoir cette petite addiction à tout le temps être ensemble et à avoir du mal à se séparer. Et quand on se voit, il y a toujours ce sentiment de que le temps s'arrête, quoi. Et à chaque fois, on se voit 2 heures, mais on se voit 2 minutes, quoi. On a tout le temps besoin de se voir, en fait.
Et quelques jours après, on se revoit dans un parc. Après, il me déposait à côté de chez moi et repartait. Et en fait, ce soir-là, je vais pour lui dire au revoir. Et puis, je pars. Je lui tourne le dos et je pars. Et puis, il m'appelle et puis il me dit « T'as pas oublié de me faire un bisou ?» Et je me retourne, je repars vers lui. Je lui fais un bisou sur la joue. Et puis, il me dit « Non, mais fais-moi un bisou sur la bouche. » Et je me retourne et je pars en sautillant. La plus heureuse du monde, c'était tout ce que je souhaitais. Et je rentre chez moi, toute contente, toute joyeuse. Et lui était encore dans sa voiture. Voilà, parfait, quoi. C'était le 21 juillet 2018.
Et donc, on se met ensemble ce soir-là. Et puis, pour moi, ouais, après notre premier rendez-vous, j'étais déjà quasiment fixé sur ce qui allait se passer. Après, il fallait juste que ça se fasse officiellement, quoi. Mais donc, oui, ce qui devait arriver, arriva, ouais.
Je me sens une autre personne quand je suis avec lui. Les moments avec lui me donnent envie de vivre. Je me sens vivante, en fait. Je me dis oui. En fait, j'avais raison à l'époque du lycée. C'est lui et ça sera lui et c'était vraiment lui.
Et j'ai quelque chose dont je n'avais jamais ressenti avant, en fait, c'est que j'ai le droit et je peux être ce que je suis réellement, en fait. Moi qui suis de nature à être chez moi et à jouer au jeu, en fait, elle a complètement accepté ça. Et donc, je peux être ce que je suis en étant avec elle, en fait.
Il m'apporte beaucoup d'amour et il me permet d'apprendre à m'aimer. J'apprends à avoir confiance en moi avec lui. J'apprends à m'accepter telle que je suis. On passe tous nos moments ensemble. On est inséparables. Sinon, c'est téléphone. Téléphone, téléphone, texto, appel, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on ne s'arrête jamais, en fait. Il n'y a pas un moment où on n'est pas ensemble. Le mois d'août se finit et j'ai bientôt la rentrée en septembre. Il fallait que je vois où je devais dormir pour pouvoir aller à Oloron, donc au CFA, qui se trouve à une demi-heure, trois quarts d'heure de Pau.
Un bled paumé. Donc, elle n'a pas de permis. Et elle me dit, j'ai une fille dans ma classe qui habite à Hydron. Je dis, mais t'es bête ou quoi? Je lui dis, dis-lui qu'elle t'amène tous les matins. Et s'il faut, la semaine, tu viens, tu dors à la maison. En fait, c'est un truc qui nous paraît évident à ce moment-là, quand je dis ça. On voulait tout le temps être ensemble. On se plaignait de jamais trop être ensemble, de beaucoup moins se voir depuis qu'elle avait repris l'école. Et donc, en fait, ça fait ni une ni deux. Et elle a dit, ouais, carrément. Et donc, à la mi-octobre, on emménage ensemble, entre guillemets, quoi. Elle vient habiter chez moi.
La semaine, je dors chez Jordan pour pouvoir faire l'aller-retour avec cette femme. Et après, le week-end, je rentre chez mes parents. Voilà. Ça fait à peine un mois et demi qu'on est ensemble. Mais ça devient naturel, ça devient ma maison.
Ça me paraît ni trop rapide ni trop lent, parce qu'en fait, juste, on avait envie que ça se passe comme ça, et on se sentait bien comme ça. Et donc, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, en fait. J'avais envie de ça, elle avait envie de ça. Il y a tout qui vient comme ça doit se passer, quoi. Je la vois tous les soirs, donc trop bien, quoi. Je vis ma meilleure vie.
Mon année, je la fais en faisant des allers-retours, donc tout va bien. Je passe mes petites vacances tranquilles, et puis je travaille. Enfin, voilà, tout va bien.
Donc, on est le jeudi 10 octobre. Elle rentre de sa journée comme elle rentre de toutes ses autres journées, un peu fatiguée.
À part que le midi, on a fait un petit repas avec le travail, un peu de vin. Et le soir, je rentre un peu fatiguée, un peu patraque.
Je suis en pleine rémission d'une gastro, donc j'ai la tête enfarinée et je suis un peu à l'ouest, mais bon. Comme elle faisait d'habitude, elle se pose dans le lit avec moi et on se repose un peu. Et donc la soirée se passe normalement et vers 21h, elle commence à être très malade. Elle se met à vomir, à avoir de la diarrhée, à avoir des pertes de sang.
Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être un début de gastro, rien de grave. Les règles, la perte de sang, je devais avoir mes règles dans la semaine. Donc j'ai mis un tampon.
Et pour ce qui est des vomissements et de la diarrhée, je me dis, pas de chance, j'avais une gastro, t'as eu la gastro. Voilà, quand on dort ensemble, c'est normal. Sauf qu'en gros, elle se plaignait beaucoup du ventre, elle se plaint énormément, elle se plaint, elle a mal. Et puis je vois qu'elle a mal, quoi, elle est dans les toilettes, elle est à l'agonie dans les toilettes.
Les douleurs deviennent de plus en plus fortes et au bout d'un bon moment, Jordan commence à s'inquiéter et appelle les pompiers.
Et donc le SAMU me dit que si les douleurs persistent, le plus simple, ça reste quand même d'aller à l'hôpital parce que le temps qu'eux arrivent, etc., trop long, quoi. Donc ils nous font comprendre qu'il faut y aller.
Les pompiers m'entendent pleurer de douleur. Ils me demandent l'échelle de la douleur de 0 à 10 et je leur explique qu'il n'y a plus d'échelle, que là, c'est beaucoup trop fort. C'est une douleur immense. Je leur dis que c'est tellement douloureux que je peux plus, en fait, j'y arrive plus, j'en peux plus. La douleur est trop insoutenable. Il fallait qu'on y aille.
Il doit être un peu moins de un peu moins de 23 heures. Donc je prends la voiture, on y va, donc on part direction l'hôpital. Sur le moment, je suis inquiet, je sais pas trop ce qui se passe. Je me dis quand même, c'est bizarre pour une gastro d'avoir si mal et tout. Alors, est-ce qu'elle en fait des caisses, je sais pas en fait. Donc sur le coup, je suis inquiet parce que ben elle est pas bien, mais ça s'arrête là quoi. Je me dis juste que c'est juste une gastro que tu dois avoir et t'as mal au ventre, c'est rien, ça va passer. Donc en gros, on fait la route jusqu'à l'hôpital.
Donc sur le chemin, je m'accroche à la poignée au-dessus de la portière et là, la douleur reprend. Et je me recramponne à cette poignée, à moitié debout dans la voiture, avec la ceinture qui me tire sur l'épaule et la douleur qui me pousse. J'arrive aux urgences, pliée en quatre.
On arrive vers 23h à l'hôpital. Il y a une infirmière qui est à l'accueil qui sort, donc qui vient un peu l'ausculter donc, pour faire l'admission. Donc elle ausculte, elle remarque rien d'anormal, il n'y a rien de spécial à première vue quoi.
Donc j'ai une urgentiste blonde qui vient me palper le ventre, qui ne trouve rien, qui ne constate rien. Mon état se détériore, donc il faut que je passe rapidement. On m'annonce que je suis la prochaine à passer.
Donc du coup on fait les papiers d'admission, entre temps Clarisse va aux toilettes, elle doit partir peut-être 10 minutes aux toilettes. Mais ça paraît une éternité, mais vraiment une éternité.
Jordan vient me voir et voit que je suis à deux doigts de faire un malaise. Je me sens vraiment ultra mal. Déjà, les toilettes sont ultra étroites. C'est des toilettes d'un hôpital, donc il y a des gens qui viennent dans les toilettes. Et j'essaie au maximum de faire le moins de bruit possible pour que personne ne m'entende. Mais je souffre le martyre. Vraiment, j'ai super mal. Je fais pas de bruit. Mais je me sens partir, soit partir dans un malaise, soit mourir. Tellement que j'étais vide d'épuisement, j'avais plus d'énergie, j'avais plus rien, mon cerveau ne fonctionne plus, je suis vide.
Ouais, elle est blanche, elle est en sueur, elle est vraiment en train de mourir dans les toilettes. Donc je me dis, oh là, c'est pas possible. Elle est en train de se décomposer, donc je cours à l'accueil, je leur dis, elle est en train de mourir dans les chiottes, là, faut speeder, là. Donc en gros, ils rentrent à 4 dans les toilettes. Il reste 2 minutes dans les toilettes. Là, il est, il doit être un peu avant minuit, il doit être minuit ou le quart.
Je sens le tampon qui glisse et je mets instinctivement ma main. Et je sens un liquide couler dans ma main, mais je ne sais pas ce que c'est. Et en fait, je me retrouve avec la main tendue devant moi. Et là, l'urgentiste, qui lui aussi est sous le choc et qui me regarde, il me dit: Madame, vous êtes en train de faire un déni de grossesse.
Cet épisode de Passage a été tourné et monté par Marion Botorel. Thomas Rosès était à la réalisation et au mix. Je me suis chargée de la production. Si cet épisode vous a plu, découvrez la suite de l'histoire de Clarisse et Jordan dès la semaine prochaine dans Passage. À très vite.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal. Mais aujourd'hui, je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6€ sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.